Bonjour, mes frères. Je suis heureux de vous voir tous ici aujourd'hui. Nous allons passer directement à un verset. Nous allons ouvrir la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, pour commencer. Nous sommes bien sûr en pleine saison des jours saints d'automne, avec. Les frères vont entendre ce message sur le terrain après la fête des trompettes, mais les frères ici, au siège, pourrait l'entendre avant les trompettes. Mais en gros, le but de ce message, nous allons nous pencher sur 2 Timothée chapitre 4, car c'est un sermon qui sera donné le sabbat après les trompettes et avant le jour des expiations. Nous sommes donc en plein milieu de la saison des jours saints d'automne. Nous allons lire un verset dans 2 Timothée 4 qui nous met dans le contexte. Prenez le verset 1. 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son avènement et de son règne, prêche la parole. Paul exhorte Timothée. Prêche la parole. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. C'est ce que je fais ici aujourd'hui. Sois prêt en toute saison, tu réprimanderas, tu exhorteras. Tu enseigneras avec toute patience et doctrine. Doctrine. Donc, en cette saison, l'une des choses que nous sommes censés aborder est la doctrine. Eh bien, les jours saints, tous les jours saints de l'automne, nous enseignent quelque chose d'essentiel au plan de Dieu, au plan global de Dieu, que le monde ignore. Vous savez, le monde ne respecte manifestement pas les jours saints de l'automne. Il ne respecte aucun des jours saints. Il respecte théoriquement la Pentecôte, mais ce n'est pas de la manière dont nous la respectons, ni nécessairement le jour où nous la respectons. Mais il y a de nombreux thèmes tout au long des 3 jours saints que nous avons à l'automne. La fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles, qui englobe également le dernier grand jour. Réfléchissez à certains de ces thèmes. Pour la fête des trompettes, vous pensez évidemment aux trompettes qui sonnent, au bruit fort. Nous venons de passer cette fête. Ce jour représente un mémorial, ou un souvenir. Les trompettes représentent l'arrivée de la guerre, où elles peuvent annoncer la paix. La guerre est annoncée par les trompettes, et la paix peut être annoncée par les trompettes. Elles peuvent annoncer la résurrection des morts, amenant l'arrivée du royaume. L'arrivée du royaume est annoncée par les trompettes. La venue de Dieu et du Christ est annoncée par les trompettes. Le jugement est un thème récurrent tout au long de cette journée, ainsi que le changement, le fait d'être transformé. Tous ces thèmes sont liés à la fête des trompettes. Le jour des expiations, nous pouvons penser à Satan qui est lié, au péché qui est pardonné. Vous savez, dans l'Antiquité, le grand prêtre y entrait une fois par an. Eh bien, nous n'avons pas de grand prêtre, physiquement parlant, qui puisse entrer dans un temple physique aujourd'hui, mais nous avons Christ, qui est notre médiateur. C'est un autre thème du jour des expiations. Être en harmonie avec Dieu est un thème puissant auquel nous devons tous réfléchir le jour des expiations. Le jeûne, bien sûr, nous aide à nous rapprocher de Dieu. Le sujet du jugement est abordé ce jour-là, et pensez au fait que c'est le seul jour saint de l'année où il n'y a absolument aucun travail. Comme nous jeûnons, nous ne travaillons même pas pour préparer la nourriture. C'est donc une sorte de repos absolu. C'est ce que cette journée, le jour des expiations, peut illustrer. L'un des thèmes. Passons maintenant à la fête des tabernacles. Réfléchissez à l'avènement du royaume, aux conditions du millénium, à l'apprentissage de la crainte de Dieu et à l'apprentissage de la joie. Ce sont tous des thèmes de la fête des tabernacles. Nous en entendrons tous parler sous peu. Il y a le thème des habitations temporaires par opposition aux habitations éternelles. Toute l'humanité aura une chance. C'est l'une des choses auxquelles nous pensons. Non seulement tous ceux d'entre nous qui partiront potentiellement les premiers auront cette chance d'accéder à la vie éternelle, mais c'est aussi un grand projet pour toute l'humanité de pouvoir finalement accéder à la vie éternelle. Elle aussi aura sa chance des. Les récompenses éternelles sont abordées lors de la fête des tabernacles. La sortie d'Israël d'Égypte. Les 40 ans dans le désert. Ce sont tous des thèmes liés à la fête des tabernacles. Et enfin, la lecture de la loi. Ce sont là toutes les choses que comprennent les jours saints d'automne. Donc, encore une fois, 2 Timothée 4, je vais juste le lire, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprimande, reprend, exhorte avec toute patience et doctrine. Je vais exhorter aujourd'hui avec la doctrine. Ce sera le but de ce message. Il y a une doctrine qui recoupe certains thèmes de toutes les fêtes d'automne. Il y a probablement un certain nombre de doctrines qui recoupent toutes les fêtes d'automne, mais nous allons nous concentrer sur une doctrine qui recoupe les thèmes de toutes les fêtes d'automne. Et comprendre cette doctrine nous aidera à les observer plus efficacement. Nous avons donc passé la fête des trompettes. Nous sommes sur le point d'entrer dans le jour des expiations. Comprendre cette doctrine vous ouvrira les yeux et vous permettra de voir le jour des expiations sous un autre angle. Il en va de même pour la fête des tabernacles et pour le dernier grand jour. Renversons l'affirmation. Sans comprendre cette doctrine, sans avoir une compréhension claire de cette doctrine, nous pouvons être loin de comprendre et d'être capables d'observer correctement les fêtes d'automne. Je renverse donc l'affirmation. Il est si important que nous comprenions cette doctrine que nous ne pouvons vraiment pas observer correctement les jours saints d'automne sans la comprendre au préalable. Et ce n'est pas une nouvelle doctrine. Ce n'est pas quelque chose que personne. Nous devrions tous avoir compris cette doctrine, mais il est bon, en cette saison, de revenir en arrière, de vérifier et de comprendre pourquoi nous croyons en cette doctrine. Car cela nous aidera à observer efficacement ces jours saints d'automne. Revenons à l'actualité mondiale. Récemment, un événement s'est produit en Amérique qui a fait le tour du monde et qui a un impact non seulement sur nous, Américains, mais aussi sur le monde entier, en particulier sur ceux qui ont une certaine tendance politique, pourrait-on dire. Nous sommes apolitiques, mais en même temps, la mort de cet homme a un impact considérable sur nous tous. Charlie Kirk, nous le connaissons tous, nous avons entendu parler de lui. Si ce n'est avant sa mort, c'est certainement après sa mort que nous avons entendu parler de lui, et peut-être avons-nous vu certaines de ses vidéos et ce qu'il faisait. Et je ne me souviens pas d'un moment où la mort d'une personnalité politique ou d'une autre personne dans le monde m'ait autant bouleversé. J'ai été très ému lorsque j'ai appris qu'un de mes amis d'école primaire était décédé soudainement d'un problème cardiaque. Cela m'a beaucoup ému. Je pense que c'était parce qu'il était jeune et avait toute sa vie devant lui. Je ne sais pas s'il était marié. Je ne sais pas s'il avait des enfants, mais c'est encore plus dur quand une personne est mariée et a deux jeunes enfants qui ne pourront pas voir, comme l'a dit Arnold Schwarzenegger. J'ai vu une interview d'Arnold Schwarzenegger où il disait que c'était tellement triste que ce père ne puisse plus faire la lecture à sa fille et à son fils. Que ses enfants lisent des livres sur lui au lieu qu'ils puissent leur faire la lecture avant de les coucher. C'est très triste à voir. Et cela a eu un impact profond sur le monde entier. Hier avait lieu son service funéraire, et certains d'entre nous en ont probablement vu des extraits, voire l'intégralité. Mais quelque chose d'intéressant s'est également produit depuis la mort de Charlie Kirk. Au cours des dernières semaines, un phénomène intéressant, je dirais, s'est produit, et j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont également remarqué. La mort d'un martyr, comme beaucoup le considèrent, a inspiré ou encouragé beaucoup d'autres personnes à essayer leur nouveau discours chrétien. Combien de personnes ont entendu parler de ce discours chrétien qui est sorti de nulle part? Contrairement à tout ce dont je me souviens avoir été dit publiquement, partout où vous regardez maintenant, que ce soit dans des interviews, dans des talk shows ou peut-être en public, les gens s'approchent d'eux et leur parlent. Les gens enregistrent désormais publiquement leurs prières de manière plus ouverte. Ils professent leur foi en Jésus de manière plus importante. Et, vous savez, c'est le genre de choses qu'ils font, vous savez, ils exposent leurs histoires de conversion, les larmes aux yeux. Et dans un certain sens, on peut comprendre d'où ils viennent. Ils sont sincères et honnêtes parce que cet homme est mort, parce qu'il a eu un tel impact sur eux d'un point de vue chrétien mondain, même s'ils respectaient le sabbat. Les gens sortent vraiment de l'ombre avec leur discours chrétien. Ils professent en quelque sorte le discours chrétien de Jésus. C'est le genre de choses qui vous donne envie de dire « Je n'aime pas vraiment la façon dont… » Ça vous donne un peu la chair de poule par moment. Je ne sais pas vraiment comment je dois réagir. Cela vous donne des frissons dans le dos, vous fait dresser les cheveux sur la tête. Ce genre de discours vous fait faire une grimace, comme si vous veniez d'écraser un insecte et qu'il vous revenait dessus. Ce genre de grimace. C'est le genre de réaction que j'ai personnellement lorsque j'entends certains de ces discours chrétiens sirupeux que l'on entend dans le monde. Et l'une des raisons pour lesquelles cette doctrine est importante, et c'est ce que nous allons voir, c'est que le monde utilise de manière incorrecte cette doctrine dont nous allons discuter aujourd'hui. Et cela encourage beaucoup de ce genre de discours sirupeux dans le monde. Cela nous ramène donc à la raison pour laquelle j'aborde ce sujet. C'est un sujet que les chrétiens mondains comprennent mal, non pas parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils sont sincères. Ils ne croient tout simplement pas à la vérité de la Bible, et nous allons l'expliquer aujourd'hui, mais parce qu'ils sont aveuglés à la vérité. Mais, mes frères, nous n'avons pas besoin d'être aveugles à cette doctrine. Et, en fait, je dirais que nous ne devrions pas l'être, car nous devons la connaître correctement afin de pouvoir continuer à célébrer les jours saints. Passons donc à la première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Nous commencerons au verset 18. Première épître de Pierre, 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, mais qui a été manifesté dans ces derniers temps pour vous, qui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour sincère pour les frères, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Être régénéré. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe. Nous sommes des êtres humains, nous sommes comme ces plantes qui poussent et finissent par mourir, très rapidement. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est cette parole qui vous est annoncée par l'Évangile. Une partie de la parole qui nous est annoncée est donc cette idée de renaître. Mais quand renaissons-nous? Quand cela se produit-il? Beaucoup de gens dans le monde diront qu'une fois qu'ils ont accepté Christ, qu'ils ont professé leur foi en lui, qu'ils ont cru en lui ou qu'ils l'ont accepté dans leur cœur, ils sont officiellement nés de nouveau. Beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, ne croient même pas que le baptême soit nécessaire. Ils considèrent simplement qu'une fois que l'on a accepté Christ, le baptême n'est même pas vraiment nécessaire à bien des égards. Certaines églises le croient, d'autres non. Certaines congrégations, certaines organisations mondaines ne le font pas. Mais qu'en est-on-nous de nouveau? Le monde a un point de vue, mais quel est celui de la Bible? Quel est le point de vue de la Bible? Tout d'abord, allons à Tite 3, avant le livre des Hébreux et Philémon. Tite chapitre 3, nous commencerons au verset 1. La question qui se posait, quand sommes-nous nés de nouveau? Et cette doctrine, même si elle peut sembler assez simple à première vue, peut parfois être compliquée si vous ne lisez pas correctement la Bible. Si vous ne comprenez pas comment les traductions apparaissent, comment certains mots hébreux et grecs doivent être lus, cela peut être trompeur. Nous venons de lire un mot qui dit « né de nouveau ». Alors, quand est-ce que cela se produit? Tite chapitre 3, verset 1. Paul s'adresse à Tite, rappelle-leur de se soumettre aux autorités et au pouvoir, d'obéir aux magistrats, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de ne pas être querelleur, mais doux, montrant toute douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la méchanceté et l'envie, haïssables et nous haïssant les uns les autres. Nous sommes tous passés par là. Mais ensuite, la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers les hommes ont été manifestés, non pas par nos œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le lavage de la régénération. Le mot régénération est palingenésia, qui signifie renaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Eh bien, voilà. Le lavage de la renaissance. Cela signifie que nous devons naître de nouveau dans cette vie lors du baptême, n'est-ce pas? Affaire classée. Fermez la Bible. Inutile de chercher plus loin. Eh bien, comme pour toute autre doctrine, les outils d'étude de la Bible doivent être mis en œuvre. Tout d'abord, il y a divers versets dans la Bible qui sont plus faciles à comprendre et d'autres qui sont plus difficiles à comprendre. C'est ainsi. Dieu l'a écrit de telle manière que cela va piéger les gens, les empêcher de comprendre la vérité jusqu'à ce que le moment soit venu pour lui de leur ouvrir les yeux. Dieu ne pouvait donc pas l'écrire de manière si simple que même s'il n'appelait pas les gens, tout le monde sur terre puisse le comprendre. Il l'a écrit de telle manière que ceux à qui il a donné son esprit reçoivent la clé pour le déverrouiller dans leur esprit avec son esprit afin qu'ils puissent le comprendre. Nous devons donc examiner les versets les plus simples avant de nous pencher sur certains versets plus difficiles. D'autre part, nous devons comprendre tous les versets sur un sujet donné. Nous ne pouvons pas nous contenter d'examiner la doctrine de la nouvelle naissance, quand nous sommes nés de nouveau, et choisir certains versets en disant « Oh, je vais examiner trois versets ». Je sais qu'il y a environ 25 ou 40 versets sur le sujet de la nouvelle naissance. Nous allons simplement nous concentrer sur ces trois-là, car ils soutiennent mon discours. Ils soutiennent ce que je voulais dire. Non, non, non. Nous devons aborder le sujet avec un esprit ouvert, examiner la doctrine sans a priori et nous demander, que dit Dieu à ce sujet, en tenant compte de tous les versets, en commençant par les plus simples, les plus clairs sur le sujet. Ensuite, nous pouvons discuter des versets les plus difficiles. Je pourrais donc affirmer que ce verset est plus difficile. C'est un verset que nous devons être capables d'expliquer. Nous devons comprendre. Mais passons au chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens. Chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens. Nous allons nous arrêter au verset 15. Colossiens 1, 15. Un point très simple. Quand naissons-nous de nouveau? Commençons à répondre à la question. Commençons à répondre à cette question. Naissons-nous de nouveau lors de notre conversion, comme le croit le monde, ou naissons-nous de nouveau à un autre moment? Voyons voir. Que dit la Bible? Quels sont les versets les plus clairs à ce sujet? Colossiens chapitre 1, verset 15. Christ, qui est l'image du Dieu invisible, est appelé le premier-né de toute créature. Christ est considéré comme le premier-né. Passons au verset 18. Quand est-il le premier-né? Il est la tête du corps, qui est l'Église. Nous savons que Christ est la tête. Nous sommes le corps. Il n'y a qu'un seul corps. Nous y reviendrons plus tard, car c'est une chose fascinante. Qui est le commencement, le premier-né? Ah, voici la clé. Quand êtes-vous le premier-né? Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir la prééminence en toutes choses. Comprenons bien. Si Christ est considéré comme le premier-né, nous devons comprendre quand il est né de nouveau. Christ serait certainement considéré comme né de nouveau. La question est, quand est-il né de nouveau? Est-il né de nouveau lors de son baptême? Est-il né de nouveau au moment où il est né physiquement? Car il est né avec le Saint-Esprit. La réponse est que la Bible nous le définit. Nous n'avons pas besoin d'interprétation. Il était le premier-né d'entre les morts. Dans le cas du Christ, il fallait qu'il meure pour renaître. Christ nous donne donc l'exemple à tous. Et s'il nous donne l'exemple, nous suivons son exemple par le baptême. Nous suivons son exemple en observant le sabbat et les jours saints, car c'est ce qu'il a fait. Si nous voulons être comme Christ, nous ne pouvons pas naître de nouveau dans cette vie. Et cela deviendra très clair à mesure que nous avancerons dans les versets. Nous devons d'abord mourir pour renaître. Passons donc au chapitre 3 de Jean. Passons à l'un des versets fondamentaux sur le thème de la renaissance. Chapitre 3 de Jean. Christ s'adresse à Nicodème. Nous connaissons tous ce récit. Nicodème est un cas intéressant à étudier. C'est un personnage qui apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Si vous avez déjà étudié Nicodème, vous savez que c'est un homme intéressant. Il apparaît même à la fin, lorsque Christ est mort. Vous pourrez donc étudier cela une autre fois. Mais ici, Nicodème était un pharisien. Le verset 1 dit, il y avait un homme, parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il occupait donc une position élevée. Il était un chef des Juifs. Celui-ci vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Car personne ne peut accomplir les miracles que tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Il avait l'esprit beaucoup plus ouvert que beaucoup de gens de son époque, en particulier les Juifs, les Pharisiens, les Sadducéens, etc. Il avait l'esprit beaucoup plus ouvert et il reconnaissait que ce pouvoir dont faisait preuve Christ venait de Dieu. Car nul ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jésus lui répondit, « Oh, peut-il, excusez-moi, laissez-moi terminer ce verset, peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Nicodème pensait de manière très physique, mais nous savons que la nouvelle naissance est un sujet spirituel. Nous pouvons naître physiquement dans cette vie, et nous pouvons naître de nouveau spirituellement parlant. Christ répondit et dit, « En vérité, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il ne vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, mes frères, cela nous donne une vision beaucoup plus large et plus détaillée de ce que signifie naître de nouveau. Permettez-moi de poser la question, en termes simples, pouvons-nous, dans cette salle, naître de nouveau si nous ne sommes pas comme le vent? Christ a dit que naître de nouveau, c'est comme être le vent. Y a-t-il parmi nous, à elle, quelqu'un qui soit comme le vent? Non, nous ne sommes pas invisibles. Nous ne sommes pas une force invisible que l'on ne peut qu'entendre passer. Nous sommes des êtres humains physiques. Le verset ci dit que ce qui est né de la chair est chair. Je suis né dans la chair, et vous êtes né dans la chair. Mais il est dit ensuite que ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'est pas seulement dit qu'ils ont l'esprit. Il n'est pas dit qu'ils ont le gage de l'esprit, que nous recevons lors du baptême. Il est dit que ce qui est né de l'esprit devient pleinement esprit, comme le vent, comme Christ continue à l'expliquer. Ainsi, au verset 9, Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le chef d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ?» en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous recevez notre témoignage. » C'est en quelque sorte, pourrait-on dire, le verset classique sur la nouvelle naissance dont parle la Bible. Et si nous voulons être honnêtes avec les Écritures et avec nous-mêmes, en regardant cela, il est impossible de lire cela et de dire que nous sommes déjà nés de nouveau dans cette vie. Nous renaissons lorsque nous devenons esprit, qui est comme le vent. C'est ce que dit le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Rappelez-vous ce qui est dit, pour être. Vous devez renaître pour voir le royaume de Dieu. Rappelez-vous ce qui est dit dans Jean 3. Pour voir le royaume de Dieu, vous devez renaître. Comprenons donc ce qui est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Or, je vous le dis, frères, la chair et le sang, les êtres humains, la chair et le sang physique, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Donc, jusqu'à ce que nous soyons composés d'esprit, jusqu'à ce que nous continuions, et cela est mentionné au verset 51. Tout au long du reste du chapitre, il est question d'être transformé en un clin d'œil, ce qui nous ramène à la fée des trompettes. À la dernière trompette, nous serons transformés. La trompette retentira et nous serons transformés. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité et ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. C'est pourquoi cette doctrine est si importante en cette saison des fêtes sacrées d'automne. Parce que les thèmes, le thème de la nouvelle naissance, se retrouvent dans toutes les fêtes sacrées d'automne. Pensez-y. Avec la fée des trompettes, à la résurrection des morts, les saints parfaits recevront la vie éternelle. Ils seront transformés. Ils naîtront de nouveau dans le royaume de Dieu, la famille de Dieu. Au jugement, le jour des expiations, réfléchissez à cela. Quand serons-nous le plus en harmonie avec Dieu? Nous sommes en harmonie avec Dieu maintenant, mais on pourrait dire que l'accomplissement ultime de l'harmonie avec Dieu se produit lorsque nous devenons nous-mêmes des êtres divins. Lorsque nous entrons dans sa famille, c'est là que nous sommes le plus en harmonie avec Dieu, au jugement. Et quand aurons-nous un repos absolu, absolu? Lorsque nous entrerons dans la famille de Dieu. Ainsi, le jour des expiations est accompli par le sujet de est expliqué et mieux compris, mieux respecté parce que nous comprenons le sujet de la nouvelle naissance. Et enfin, la fée des tabernacles. Pensez au fait que cela représente des habitations temporaires. Nous l'avons mentionné plus tôt. Des habitations temporaires par opposition à des habitations éternelles. Nos habitations éternelles seront auprès de Dieu. La nouvelle naissance et nos récompenses éternelles sont représentées dans la fête des tabernacles. Ainsi, mes frères, nous devons comprendre cette doctrine. Il est très important que nous le fassions. Cela nous aide à observer les jours saints d'automne et à les voir sous un angle différent. Romains chapitre 8. Nous venons de lire que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Réfléchissez à cela. Comment pourrions-nous naître de nouveau dans cette vie avec ce verset à l'esprit? Verset 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons donc de ce verset. Regardez-le simplement sous cet angle. Il nous place dans le temps présent. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, nous sommes donc toujours des êtres humains dans ce verset. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agit avec l'Esprit de l'homme, montrant que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants maintenant, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes donc considérés comme des héritiers dès maintenant. Nous ne sommes pas encore les héritiers. Nous n'avons pas encore hérité du royaume de Dieu. Nous sommes les héritiers de la promesse d'entrer dans la famille de Dieu et d'être dans le royaume de Dieu. Si c'est le cas, nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous sommes donc héritiers dès maintenant et nous souffrons dès maintenant. Nous souffrons avec Christ dès maintenant avant d'être glorifiés avec lui. Être glorifié signifie que nous héritons réellement du royaume de Dieu. Nous héritons des promesses que Dieu nous a faites. C'est cela, être né de nouveau. Nous sommes engendrés dès maintenant. Nous sommes héritiers dès maintenant. Nous ne sommes pas nés de nouveau ou héritiers. Ce verset soutient donc l'idée que nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu lorsque nous recevons la vie éternelle. Considérez donc les églises du monde qui croient qu'elles sont déjà nées de nouveau et qui se limitent elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elles se limitent elles-mêmes et elles limitent Dieu. Comment cela? Eh bien, c'est similaire à croire en la doctrine de la Trinité. Combien d'entre vous se souviennent que M. Pack a expliqué dans son livre que si vous croyez que nous servons un Dieu trinitaire, que le Dieu de la Bible est appelé la Trinité, ce qui signifie qu'il n'y a que trois êtres composant la divinité, alors ce nombre, par définition, ne peut pas s'étendre. Et cela limite Dieu. Cela limite Dieu et ce qu'il fait avec son plan pour toute l'humanité. Si la Trinité est un être divin fixe, il n'y en a que trois en un, ce qui signifie par définition que vous ne pouvez pas en ajouter un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, 100, 144 000 ou beaucoup, beaucoup plus encore. Cela signifie que la divinité reste trois, et cela limite Dieu. Cela limite notre formidable potentiel. Il en va de même pour la doctrine de la nouvelle naissance. En comprenant et en croyant que nous sommes nés dans cette vie, nous disons en fait, « Eh bien, j'ai en quelque sorte atteint le sommet. J'ai atteint la nouvelle naissance. » Oui, vous pourriez peut-être aller au ciel ou quoi que cela signifie, mais ils disent qu'ils sont nés de nouveau dans cette vie lors de leur conversion. Et cela impose une grande restriction et une limitation à ce que Dieu va réellement faire. Non, non, non. Vous êtes engendré dans cette vie. Ce que vous pensiez être la nouvelle naissance est bien moins que cela. Il est bien plus grand d'être né de nouveau. Ne limitez pas Dieu dans ce qu'il peut faire. Le plan de Dieu pour vous est bien plus grand. Naître de nouveau est bien plus que simplement recevoir le gage de l'Esprit lors de la conversion. Revenons donc au chapitre 1 de la première épître de Pierre, où nous avons commencé, à l'un des premiers versets. Chapitre 1 de la première épître de Pierre. Réexaminons ce verset qui peut sembler un peu confus à première vue, et essayons de le comprendre. Première épître de Pierre, chapitre 1. Lisons cette fois-ci le verset 23. Juste le verset 23. Étant né de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Mais je pensais, monsieur Holcombe, je pensais que nous disions que naître de nouveau, c'est recevoir la vie éternelle. Ce verset donne l'impression que vous êtes né de nouveau lorsque vous recevez la conversion, n'est-ce pas? Eh bien, comprenons ce que signifie le mot « né ». Le mot « naître » est le mot grec « anagenao », « anagenao ». Et avant d'entrer dans la définition de ce mot, revenons au verset 3 de la première épître de Pierre. Lisons le début de ce chapitre avant d'entrer dans la définition d'anagenao. Première épître de Pierre, verset. Commençons par le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être aspergé du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde abondante, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Or, le mot « engendré » est le même que celui que vous voyez au verset 23, traduit par « né ». Nous sommes engendrés par le Saint-Esprit dans cette vie. Nous ne sommes pas nés du Saint-Esprit dans cette vie. Il s'agit d'une erreur de traduction. Engendré, anagenao, signifie engendré. Le mot anagenao signifie engendré ou, par extension, porter. Ainsi, lorsqu'il y a procréation chez un être humain ou un animal, cela signifie qu'une nouvelle vie a vu le jour et que cet animal ou cet être humain va grandir dans l'utérus jusqu'à ce qu'il soit engendré, jusqu'à ce qu'il naisse finalement dans cette vie. C'est le même mot utilisé dans le verset 23 qui est mal traduit par « né de nouveau ». C'est pourquoi nous ne devons jamais nous baser sur un seul verset, sur une traduction ou quoi que ce soit d'autre pour établir une doctrine. Nous devons considérer l'ensemble. Nous ne pouvons pas nous contenter de choisir certains versets. Quelqu'un dans le monde pourrait dire « Eh bien, voilà. C'est tout ce qu'il faut. Il est écrit « né de nouveau » ici, ce qui signifie que vous êtes né de nouveau dans cette vie. » Eh bien, non, ce n'est pas le cas. C'est une traduction erronée. Le chapitre 5 de la première épître de Jean est très similaire. Dans le verset 1 du chapitre 5 de la première épître de Jean, nous voyons le mot anagenao trois fois dans ce verset, trois fois dans ce seul verset. Lisons-le. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Non, ce mot est anagenao. Il devrait être traduit par engendré de Dieu. Et voici ce qui est amusant. Les deux autres fois où il apparaît dans ce verset, trois fois vous voyez anagenao, dont l'une est traduite par né. Les deux autres sont traduites par engendré, ce qui est correctement traduit par engendré. Lisons donc le verset tel qu'il doit être lu. Quiconque croit que Jésus est Christ est engendré par Dieu. Et tous ceux qui l'aiment, qui ont engendré, aiment celui qui est engendré par lui. Nous disons donc que Dieu nous a engendrés par le Saint-Esprit. Il ne nous a pas fait naître de nouveau. Il n'existe pas, physiquement parlant, de procréation qui mène immédiatement à la naissance. Cela n'arrive tout simplement pas. C'est impossible. Donc, d'un point de vue pratique, du point de vue du monde, comment pouvez-vous croire que vous êtes né de nouveau s'il n'y a jamais eu de procréation au départ? Où était la procréation? Si quelqu'un décide aujourd'hui de renoncer à la prostitution ou à la consommation de drogue dure et décide immédiatement dans son cœur « je vais accepter Christ aujourd'hui », où était le processus de génération et le processus de conversion s'il est immédiatement né de nouveau à ce moment-là? Cela n'a aucun sens à première vue. C'est illogique. Revenons donc au chapitre 3, verset 1. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qui va se passer à la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Mais pour l'instant, nous sommes les fils de Dieu avant la naissance. L'un des moyens les plus simples de ne jamais oublier la vérité sur la nouvelle naissance, sur la doctrine de la nouvelle naissance, est de comprendre le processus physique de la conception et de la naissance. Comprendre les parallèles physiques entre un bébé dans l'utérus avant la naissance et la conversion d'un chrétien avant d'entrer dans la famille de Dieu transforme l'apprentissage d'une doctrine simple en action. Donc, ce que nous allons faire pendant le reste du message, c'est examiner les parallèles physiques entre la procréation et la croissance physique d'un chrétien, et un chrétien de l' qui est engendré par le Saint-Esprit et passe le reste de sa vie à grandir, à développer cet esprit, à développer son caractère en préparation à la nouvelle naissance. Et si nous comprenons simplement ce parallèle, nous ne serons jamais confus quand au moment où nous sommes nés de nouveau. Espérons que nous ne sommes déjà pas confus. C'est un sujet assez simple. C'est un concept assez simple. Mais le monde se trompe complètement. Et dans un monde où, aujourd'hui plus que jamais, on entend beaucoup parler du christianisme, il est bon de se recentrer et de comprendre ce que dit la Bible. Quelle est la vérité de la Bible? Car vous entendrez peut-être des gens dire, « Eh bien, je suis né de nouveau dans le monde. Je suis né. J'ai accepté Jésus. Je suis né de nouveau. Non. Je suis né de nouveau lorsque j'entre dans la famille de Dieu. Je suis engendré à ce moment-là. » Il existe donc de nombreux parallèles, des parallèles physiques, entre la conception d'un être humain dans l'utérus, le développement de ce bébé avant sa naissance physique et le développement spirituel d'un chrétien avant sa naissance de nouveau. Hier, lors des offices, et aujourd'hui, nous avons récemment assisté à un baptême. Quelqu'un a été engendré par le Saint-Esprit, et un petit bébé, pourrait-on dire, un bébé chrétien, s'est développé dans l'utérus. Maintenant, cette personne passera le reste de sa vie naturelle, comme nous tous, puisque nous avons tous été baptisés. Si nous avons tous été baptisés, alors ce que nous faisons est identique à ce que cette personne fait actuellement, à savoir essayer de se développer et de grandir. Maintenant, comment nous développons-nous? Comment un bébé physique se développe-t-il dans l'utérus? Examinons trois parallèles majeurs dans le temps qui nous reste. Trois parallèles majeurs entre le fait d'être engendré au sens physique, le développement du bébé, ce qu'il faut pour que le bébé se développe, et enfin la renaissance. Examinons trois parallèles majeurs entre ce qu'il faut pour qu'un bébé se développe correctement dans l'utérus. Tout d'abord, un placenta et un cordon ombilical fonctionnel sont nécessaires. Si vous ne savez pas ce qu'est un placenta ou un cordon ombilical, Je peux essayer de vous l'expliquer si vous avez déjà entendu ces termes. Je ne me sens pas qualifié pour parler des placenta et des cordons ombilicaux ici, mais comme les femmes ne se tiennent pas à la chair pour prêcher, quelqu'un doit le faire, n'est-ce pas? C'est donc moi. C'est moi, je suppose. Le placenta et le cordon ombilical. Tout d'abord, que sont-ils? Quel est leur rôle physique dans le développement d'un enfant avant la naissance? Le placenta joue un rôle crucial dans la croissance et le développement du bébé, en lui fournissant des nutriments, en produisant des hormones, en régulant le flux sanguin et en éliminant les déchets. Maintenant, c'est comme. Je ne sais pas exactement à quoi servent ces éléments sur les chargeurs d'ordinateur. Si vous avez déjà vu ces chargeurs d'ordinateur qui ont. C'est comme un cordon qui se connecte à un bloc, puis qui se connecte à un autre cordon qui va à votre ordinateur. Donc, il relie le mur à votre ordinateur, mais il y a ce bloc au milieu. Je ne sais pas exactement à quoi sert ce bloc, mais je suis presque sûr que je vais simplement l'appeler le placenta, d'accord? C'est le placenta. C'est là que tous les nutriments sont acheminés, et il transfère tous les nutriments et les bonnes choses de la mère au bébé via le cordon ombilical. Le cordon ombilical est la connexion entre le placenta et le bébé, là où il se connecte à son nombril. Donc, le cordon ombilical est, en fait, vous pouvez le voir comme cela. C'est la ligne de vie entre le placenta, qui est très important, et le bébé en développement. Considérez cela d'un point de vue spirituel. Le placenta comme source de nourriture. Considérez le placenta comme la nourriture dont le bébé a besoin pour rester en vie, et le cordon ombilical comme le lien vital qui le relie à cette nourriture. D'un point de vue spirituel, nous pouvons considérer le placenta. Ce n'est qu'un exemple. Considérez le placenta comme la vérité dans son ensemble. La vérité. Le placenta est le centre de elle, tout ce qui nourrit le bébé pour son plein développement. Sans le placenta, le bébé ne peut pas obtenir la nutrition dont il a besoin. Il ne peut pas se développer. Il ne peut pas grandir. Alors, en tant que chrétien, de quoi avons-nous besoin pour nous développer? Nous avons besoin de la vérité. Sans la vérité, nous ne pouvons pas grandir. Prenons l'exemple de la doctrine de la nouvelle naissance. Sans cette doctrine, nous ne sommes pas nourris de la vérité. Nous ne sommes pas nourris et alimentés et nous ne pouvons pas nous développer et comprendre les jours saints, par exemple, correctement, sans comprendre la vérité de la nouvelle naissance. On pourrait donc dire que chaque domaine de la vérité est représenté par ce placenta. Maintenant, considérez le cordon ombilical comme votre lien avec la vérité. Plus le cordon ombilical est solide, plus il est sain, plus votre lien avec la vérité sera fort. Et nous allons simplement comparer le cordon ombilical, vous pouvez le noter. Le cordon ombilical est votre lien vital avec la vérité. Maintenant, quel est votre lien vital avec la vérité? Que faisons-nous chaque jour pour nous assurer que nous restons connectés à la vérité, ancrés dans la vérité, que la vérité ne s'échappe jamais de notre esprit? Nous appliquons les cinq outils de la croissance chrétienne. Les cinq outils de la croissance chrétienne sont très simples, et nous les avons entendus à maintes reprises. La prière, l'étude, le jeûne occasionnel, la méditation et l'exercice de l'Esprit de Dieu. Maintenant, exercer l'Esprit de Dieu se décline en une multitude d'autres choses, car si vous y réfléchissez bien, exercer l'Esprit de Dieu, c'est appliquer les choses que vous avez apprises grâce à l'étude de la Bible, les choses que vous discernez grâce à la prière et à la méditation, ou au jeûne. Exercer l'Esprit de Dieu, c'est vivre les choses que vous avez faites. On pourrait donc dire que c'est mettre en pratique votre étude de la Bible. Appliquez l'humilité, appliquez la sagesse, appliquez le discernement. Toutes les choses que vous avez apprises grâce à l'étude de la Bible se font par les actions qui consistent à exercer l'Esprit Saint de Dieu. Voilà donc ce qu'est le cordon ombilical. Sans ces cinq outils de croissance chrétienne, le cordon ombilical lui-même commence à se flétrir. Il s'affaiblit. Ma femme, c'était un moment assez drôle, mais étrange, la naissance de notre premier enfant. Je me souviens avoir entendu qu'il y avait une sage-femme, bien sûr, qui était là pour aider à mettre le bébé au monde. Mais ensuite, il y avait un groupe de jeunes enfants qui sont entrés, pas des enfants, mais des jeunes qui apprenaient à, ils étaient à l'école, je suppose, et ils apprenaient à aider à mettre un enfant au monde. Et quand le placenta est sorti, et que le cordon ombilical est sorti, après le bébé, ils ont regardé le placenta, et ils étaient tous émerveillés. C'est merveilleux. Vous savez, ils regardaient le cordon ombilical et disaient, « Oh là là, c'est un cordon ombilical parfait. C'est le plus beau cordon ombilical qui soit. » Je me disais, « C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous ?» Mais c'est un cordon ombilical sain, et un cordon ombilical sain fait un bébé en bonne santé. C'est assez simple. Maintenant, si le cordon ombilical était flétri à ratatiner et nœud, il ne remplirait pas correctement sa fonction qui est d'acheminer les nutriments du placenta vers le bébé. Je dis tout cela pour dire que nous avons accès à la vérité tout entière. Nous avons accès au plus grand placenta qui n'ait jamais existé. Plus que jamais, grâce à notre connaissance et à notre compréhension des prophéties. Nous ne pouvons donc pas limiter notre accès à ces merveilleuses vérités en ne priant pas, en n'étudiant pas, en ne jeûnant pas quand nous en avons besoin, en ne méditant pas ou en n'exerçant pas l'Esprit de Dieu. Moins nous faisons ces choses, plus nous nous coupons nous-mêmes, plus nous coupons notre lien vital avec la vérité et, en fin de compte, avec Dieu lui-même. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Ouvrons notre Bible à ce passage. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et l'honneur, tant maintenant que pour toujours. Amen. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Maintenant, quelle est la tâche d'un bébé? Avez-vous déjà entendu parler d'un bébé dans l'utérus qui a grandi jusqu'à un certain point, puis qui commence à rapetisser? Un bébé peut-il vraiment rapetisser dans l'utérus? Non. Notre rôle en tant que chrétien est de continuer à grandir tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous renaissions dans la famille de Dieu. Les bébés ne rétrécissent pas. Ils ne deviennent pas plus petits. Mais ce que nous pouvons faire, c'est commencer à couper ce lien vital avec la vérité, ce qui arrêtera et empêchera notre croissance. Et finalement, si nous ne faisons pas attention, si nous ne prions pas du tout ou ne faisons aucune étude, si nous n'exerçons pas l'Esprit de Dieu, si nous ne faisons rien de tout cela, les outils de la croissance chrétienne, que se passe-t-il? Vous pouvez mourir. Il peut y avoir une fausse couche spirituelle, et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne voulons pas cela. Nous pouvons étrangler le cordon ombilical et finalement empêcher une fausse couche spirituelle, ce qui nous amènera simplement à décider de quitter l'Église ou à décider de retomber dans le péché sans nous en soucier. Et c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Nous ne voulons pas cela. Un dernier verset sur ce point. Jean 15. Jean 15 et verset 3. Jean 15, 3 dit ceci, « Maintenant, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Les paroles que Dieu nous a données nous rendent purs, et nous devons continuer à y avoir accès grâce à ces outils de croissance chrétienne. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, car le sarment ne peut porter de fruits de lui-même. Nous ne pouvons pas porter de fruits par nous-mêmes. Le bébé dans l'utérus a besoin d'un cordon ombilical. Il a besoin du placenta, sinon il ne peut pas grandir. C'est très simple. Il ne peut pas. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure pas sur le cep. Vous non plus, vous ne pouvez rien faire si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Vous pouvez grandir plus vite, plus puissamment dans l'utérus. En tant que chrétien, plus votre connexion avec Dieu, Christ et la vérité est grande. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. La parole de Dieu contient des promesses extraordinaires que nous pouvons revendiquer si nous utilisons simplement ces outils de croissance chrétienne. Cela nous amène au deuxième point. Le deuxième parallèle physique consiste à avoir un environnement utérin sain. Je vais vous expliquer ce qu'est l'utérus. L'utérus est en quelque sorte la petite maison du bébé. C'est là que le bébé se développe. Et à l'intérieur de l'utérus se trouve le liquide amniotique. Le liquide amniotique, c'est ce dont on parle quand on dit qu'une femme a perdu les os avant l'accouchement. C'est l'utérus qui se rompt et le liquide amniotique qui s'écoule. Le bébé est donc sur le point de naître. Mais jusqu'à la naissance, le liquide amniotique est essentiel. Il est essentiel. J'ai entendu parler de cas où certaines personnes n'ont pas assez de liquide amniotique. L'environnement n'est alors pas propice à la croissance du bébé. Certaines personnes ont trop de liquide amniotique, ou peut-être que la qualité du liquide amniotique n'est pas très bonne, ou autre chose. Le point important ici est que l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel vit un bébé, est essentiel. Il en va de même pour nous sur le plan spirituel. Jérémie 17, 8. Jérémie 17, 8. Dans quel type d'environnement vivons-nous, vous et moi, en tant que chrétiens en voie de naissance? Comment est votre liquide amniotique? Je vais le formuler ainsi. Jérémie 17, verset 8. Je ne lis qu'un seul verset. Car cela, il parle de l'homme, au verset 7, qui met sa confiance en Dieu. Au verset 8, car il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau, et qui ne craint pas la chaleur quand elle vient. Ses feuilles resteront vertes, et il ne s'inquiétera pas pendant l'année de sécheresse, et il ne cessera pas de porter du fruit. Imaginez-vous, en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, prenez l'exemple d'un arbre qui est utilisé ici dans Jérémie 17, verset 8. Un arbre, s'il se trouve dans le bon environnement, s'il est planté près d'une rivière, s'il est planté près d'un lac, ne manquera jamais d'eau en période de sécheresse. Ses racines pourront constamment puiser dans une source d'eau parce qu'il se trouve dans le bon environnement. Maintenant, si un arbre se trouve au sommet d'une colline et que toute l'eau s'écoule de cette colline, cet arbre pourrait mourir très facilement, car l'eau coule vers le bas, c'est assez simple. Ainsi, si les racines ne peuvent pas accéder correctement à cette eau, en période de sécheresse, cet arbre pourrait mourir instantanément. Il n'est pas dans le bon environnement. De quel type d'environnement sommes-nous entourés? Cet environnement nous permet-il de nous épanouir en tant que chrétiens, Où nous tire-t-il vers le bas? Premier livre des rois, chapitre 10, vous pouvez vous y rendre. Premier livre des rois, chapitre 10. Salomon a reçu toute cette sagesse. Dieu l'avait immensément béni. La reine de Séba est venue au chapitre 10 et a rendu visite à Salomon. Elle a vu toutes les choses merveilleuses qu'il avait accomplies, la sagesse que Dieu lui avait accordée. Mais si vous descendez au verset 23, nous lisons ceci, « Le roi Salomon surpassait tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et toute la terre venait vers Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. C'est donc Dieu qui lui avait donné cela. » Mais dans quel genre d'environnement Salomon s'est-il placé? Et chacun apportait en cadeau des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, des armures, des épices, des chevaux, des mulets, chaque année. Et Salomon rassembla des chars et des cavaliers. C'est l'environnement qu'il s'est construit. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il avait ses chars et auprès du roi à Jérusalem. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la vallée. Salomon fit venir des chevaux d'Égypte. Il continuait à accumuler toutes ces choses, s'entourant des biens matériels de cette vie, les biens physiques de cette vie que Dieu avait interdits, et cela le corrompit. Il fit venir du lin, et les marchands du roi recevaient le lin à un certain prix. Et un char arriva. Verset 29. Et sortit d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150. Et ainsi, pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie, ils le firent sortir par leurs moyens. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, des nations dont le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous. » Salomon a fait le mal aux yeux de Dieu, car il s'est entouré des mauvaises personnes et des mauvaises choses. Comparez cela. Revenez à la fin de l'Ancien Testament, au livre de Daniel. Comparez cela au chapitre 1 de Daniel. Salomon a fait le mal. Il s'est entouré de personnes et de choses qu'il n'aurait pas dû, mais Daniel a fait le contraire. Daniel, vous pouvez lire le chapitre 1 ici. Reprenons au verset 3. Le roi dit à Ashpinaz, chef de ses eunuques, « Amène-moi certains des enfants d'Israël, de la descendance du roi et des princes, des enfants sans défaut, beaux de figure, doués de sagesse, habiles dans la connaissance, versés dans la science, capables de servir dans le palais du roi. » Et au verset 5, le roi leur assigna une portion quotidienne de la table du roi et du vin qu'ils buvaient, et il les nourrit ainsi pendant 3 ans, afin qu'à l'expiration de ce délai, ils fussent en mesure de se tenir devant le roi. Parmi eux se trouvaient, parmi les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ces 4 hommes, auxquels le chef des eunuques donna des noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Ebednego. Mais Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec la portion de la nourriture du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Il demanda donc au chef des eunuques de ne pas le souiller. Alors vous venez, et Daniel supplie ces gens. Mais, vous savez, une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que Daniel, si vous continuez à lire, nous n'avons pas besoin de le lire, nous connaissons tous le récit, mais vous pensez à Daniel comme étant celui qui mangeait des légumineuses, qui mangeait des légumes, afin d'avoir une peau saine, etc. Mais ce n'était pas seulement Daniel. C'étaient les 4. Ils ont tous les 4 décidé qu'ils ne mangeraient pas la viande du roi, et qu'à la fin de ces 10 jours, ils auraient meilleure mine grâce à cela, et c'est ce qui s'est passé. Ce n'était donc pas seulement Daniel qui avait fait cela. Daniel s'était entouré de trois autres personnes de qualité, des personnes qui partageaient le même état d'esprit, le même jugement, des personnes qui avaient décidé de faire la même chose. Il voulait obéir à Dieu et ne pas manger on ne sait quel genre de porc ou de viande que le roi leur aurait donné. Daniel s'était donc entouré de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces mêmes personnes étaient tellement remplies de foi que lorsqu'elles sont entrées dans la fournaise ardente, elles l'ont fait de leur plein gré, sachant que Dieu les délivrerait, et que Christ était là avec elles. C'est une chose extraordinaire. C'est donc le genre de personnes dont nous devons nous entourer. C'est le genre d'environnement dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas nous entourer des choses matérielles de cette vie, comme Salomon, ou de mauvaises personnes, de mauvaises musiques, de mauvais divertissements. Nous ne voulons pas nous entourer et remplir notre esprit de mauvaises choses dans cette vie, car ce dont nous nous nourrissons, c'est ce que nous devenons finalement. Plus nous nous entourons de bonnes personnes, de bons divertissements, si vous voulez, plus nous serons capables de grandir et plus notre environnement sera sain, tout comme un environnement utérin sain est nécessaire au développement du bébé. Enfin, le troisième parallèle, je dirais, est l'un des plus intéressants et des plus importants de tous. Le soutien maternel. Qu'est-ce que j'entends par soutien maternel ? Nous savons que l'Église est appelée notre mère. Or, lorsque vous êtes engendré par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas engendré dans une secte ou une dénomination créée par les hommes, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le dit le baptême. Nous l'avons lu l'autre jour. Nous ne sommes pas engendrés dans une organisation, nous sommes engendrés dans le corps du Christ. Mais le corps du Christ est appelé d'une certaine manière dans la Bible. Il est appelé mère. L'Église est notre mère. Passons au chapitre 12 de Matthieu. Verset 46, Matthieu 12. Ouvrez à cet endroit. Verset 46. Et Christ dit, tandis qu'il parlait encore au peuple, voici, sa mère et ses frères se tenaient dehors, désirant lui parler. La mère et les frères du Christ. Alors quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te parler. Il disait au Christ, oh, ta mère est là, Marie est là, elle veut te parler, ainsi que tes frères. Ils veulent te parler. Mais Christ leur répondit, celui qui lui a dit cela, qui est ma mère, c'est comme ce livre que je lisais quand j'étais enfant, où est ma mère? Es-tu ma mère? Vous vous souvenez de ce livre? Es-tu ma mère? Et il alla voir différents animaux, elle, mais ce n'était pas sa mère. Le petit oisillon s'approche du chat et lui demande, es-tu ma mère? Non. Finalement, il s'approche de cette énorme excavatrice, la sniffe et lui demande, es-tu ma mère? Et l'excavatrice se contente de renifler. Puis elle le soulève, le repose dans le nid, et la mère oiseau arrive. Bref, c'est une parenthèse, je dirais. C'est une parenthèse. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Il étendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Mes frères, vous et moi sommes les mères et les frères de tous les autres membres de l'Église. Le corps du Christ est la mère. L'Église est la mère. Nous utilisons le terme « Église » dans notre vie. La Bible utilise le terme « Église ». Qu'est-ce que l'Église ? Le mot « Église » est « Ecclesia » et il signifie « ceux qui sont appelés ». Nous ne sommes donc pas assis dans une Église. Nous sommes l'Église. Nous allons aux offices pour voir l'Église. Nous n'allons pas aux offices dans l'Église, si cela a un sens. Christ disait donc l'Église, les frères, sont la mère. Et comment savoir si nous sommes dans la bonne église? Comment savoir si nous sommes parmi les bons frères, les bons appelés? Eh bien, le verset 50 dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est ainsi que nous savons qu'il n'y a qu'une seule véritable Église. Il n'y a qu'une seule organisation qui est le corps du Christ, et non pas 50, 100, 1000 ou 10 000 organisations qui peuvent composer le corps du Christ. Christ n'est pas divisé. La mère n'est pas divisée. Quiconque fait la volonté de Dieu est défini comme étant un frère ou une sœur, ou encore la mère, l'Église. Donc, si nous connaissons la vérité, si nous savons que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, et que nous ne dévions pas, que nous ne faisons pas de compromis, que nous ne devenons pas laodicéens dans ces domaines de compréhension, alors nous pouvons savoir que nous sommes dans la véritable Église de Dieu, que nous sommes parmi les frères qui sont notre mère. Maintenant, les mères, physiquement parlant, nourrissent, alimentent et prennent soin du bébé tout au long de la grossesse jusqu'à la naissance. Considérez les sacrifices qu'une mère fait pendant la grossesse. Elles doivent changer leurs habitudes alimentaires. Elles doivent changer leurs habitudes de consommation d'alcool. Elles ne peuvent pas boire d'alcool. Elles doivent changer leur façon de dormir. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque ma femme est tombée enceinte pour la première fois, on ne peut pas dormir. Évidemment, on ne peut pas dormir sur le ventre, mais on ne peut même pas dormir sur le dos. Certaines choses se produisent même si vous dormez sur le dos en tant que femme enceinte. Le poids du bébé peut peser sur certains organes et couper la ligne de vie du bébé, en fait. Il est donc important qu'une femme, une mère enceinte, dorme sur le côté. Le côté gauche est particulièrement propice au bon développement du bébé. Elles doivent donc changer leur façon de dormir. Et si j'aime dormir sur le ventre, je ne serais pas contente si je tombais enceinte. J'aime dormir sur le ventre et j'aime dormir sur le dos. Ce serait donc un très grand défi pour moi si je tombais enceinte et que je devais dormir uniquement sur le côté gauche ou autre. Sans parler des nausées liées à la grossesse, de la prise de poids, des contractions de Braxton Hicks et de tous les autres changements qui accompagnent la grossesse. La mère fait de grands sacrifices pour son bébé, et cela avant même sa naissance. Imaginez donc une mère qui traverse tout cela pour que son bébé lui dise « Désolé, maman, je veux te quitter en tant que mère qui m'a été donnée, et je vais sortir de ton ventre pour aller vers une autre mère. » C'est ce qui se passe quand quelqu'un découvre la vérité, il croit en toute la vérité de la Bible, mais ensuite il décide « Je vais quitter l'Église. » Ce que vous dites, c'est que vous allez quitter votre mère. C'est ce que vous dites, en quittant l'Église. Beaucoup le font, cependant. C'est incroyable. C'est très triste. Nous allons parcourir quelques proverbes, les examiner et comprendre beaucoup de proverbes sur la mère, beaucoup de proverbes sur les parents en général. Mais lisons quelques proverbes sur la mère physique, et pendant que nous les lisons, réfléchissons-y d'un point de vue spirituel, du point de vue de la mère spirituelle. Ne les considérez pas comme des mères physiques. Considérez-les comme la mère spirituelle, l'Église. Mon fils, garde le commandement de ton Père. Le Père est Dieu. Il est donc facile de comprendre les parallèles spirituels ici. Mon fils, garde le commandement de ton Père et n'abandonne pas la loi de ta mère. Proverbe 10, un proverbe de Salomon. Un fils sage réjouit son Père. Si vous êtes sage, vous réjouirez Dieu le Père. Mais un fils insensé est le chagrin de sa mère. Réfléchissez-y. Si nous, membres de l'Église, Commettons une faute et que celle-ci est rendue publique, cela n'est pas seulement mauvais pour vous personnellement. Imaginons que vous ayez trop bu un soir et que vous ayez décidé de prendre le volant, que vous vous soyez fait arrêter et que vous ayez été condamné pour conduite en état d'ivresse. Vous avez été arrêté et vous avez peut-être dû purger une peine de prison. Qui sait? Ce n'est pas seulement mauvais pour vous personnellement, cela jette le discrédit sur votre mère. Nos actions ne se produisent pas dans le vide. C'est un poids pour sa mère lorsqu'un enfant fait des choses insensées. Proverbe 15, verset 20. Un fils sage réjouit son père, mais un homme insensé méprise sa mère. Nous ne devrions jamais mépriser notre mère, l'Église. Proverbe 19, verset 26. Celui qui fait perdre son père et chasse sa mère est un fils qui cause la honte et apporte le reproche. Beaucoup d'entre nous ont probablement pensé à cela d'un point de vue physique avec nos propres parents, mais l'avons-nous jamais considéré d'un point de vue spirituel? Que nous sommes maintenant des fils et des filles engendrés qui ont une mère. Proverbe 20, verset 20. Celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe sera éteinte dans les ténèbres obscures. Nous ne voulons jamais nous retrouver dans une situation où nous maudissons Dieu ou l'Église, car notre lampe pourrait être éteinte dans les ténèbres obscures. Enfin, Proverbe 23, 22. Écoute ton père qui t'a engendré. Qui t'a engendré? Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il vous a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle sera vieille. Ne la méprisez pas. Mes frères, nous ne pouvons pas simplement passer d'un ventre à l'autre. Vous savez, dans le livre de Luc, il est dit que le bébé a bondi dans le ventre, Jean-Baptiste a bondi dans le ventre, lorsque Marie est entrée dans la pièce, et Marie était également enceinte. Jean-Baptiste a bondi dans le ventre. Il n'est pas dit qu'il a bondi hors du ventre. Il n'est pas parti à la recherche d'une autre mère. Non, il a simplement bondi dans le ventre. C'est ce qui se passe quand quelqu'un quitte l'Église. Il décide de bondir hors du ventre. C'est une idée insensée. Non seulement il se fait du mal, mais il fait aussi du mal à sa mère. Combien d'entre nous ont été blessés en voyant quelqu'un avec qui nous étions de bons amis, peut-être depuis longtemps dans l'Église, décider de partir? Cela fait mal à la mère. Savez-vous pourquoi cela vous fait mal personnellement? C'est parce que vous êtes la mère. Vous faites partie de la mère. Quand quelqu'un quitte l'Église, il se coupe de la vérité, et il se fait du mal à lui-même et à la mère, à nous tous. Ainsi, mes frères, nous ne pouvons pas oublier qu'il existe une organisation qui fournit la vérité complète de la Bible. Nous ne pouvons pas l'oublier. Nous faisons partie de la seule organisation qui accomplit la volonté de Dieu, qui fournit la vérité complète. C'est ainsi que vous savez que c'est la mer dans laquelle nous devons être. Alors, pour conclure, réfléchissons profondément à ces leçons importantes sur la nouvelle naissance, sur ce que cette doctrine signifie réellement, alors que nous continuons à traverser cette saison des jours saints d'automne. N'oublions jamais que nous sommes engendrés. Notre but dans cette vie est actuellement de nous développer et de grandir. Et la manière et les moyens par lesquels nous y parvenons pour naître dans le royaume de Dieu consistent à nous assurer que nous avons un placenta et un cordon ombilical saint qui nous relient à lui, que nous utilisons chaque jour les cinq outils de la croissance chrétienne, à l'exception du jeûne. Si vous jeûnez tous les jours, il y a là un très gros problème. Vous ne voulez pas faire cela. Le jeûne est l'exception à cette règle. Mais nous devons exercer ces cinq outils de croissance chrétienne afin de nous développer et de grandir pour naître dans la famille de Dieu. Deuxièmement, réfléchissez à l'environnement dans lequel vous vous placez chaque jour. plus nous nous entourons de vérités, plus nous nous entourons de bons exemples, de personnes qui partagent les mêmes idées. Nous ne voulons pas avoir de communion avec le monde. Évidemment, nous devons interagir avec le monde. Ce n'est pas la question, mais nous ne voulons pas simplement faire venir des gens du monde chez nous tout le temps sans raison et nous entourer de si nous n'y sommes pas obligés. Évidemment, lorsque nous allons au travail, nous devons nous entourer des coutumes du monde. C'est une évidence. Mais dans quel genre d'environnement nous plaçons-nous? Et enfin, mes frères, pensez à la mère. Pensez à l'église dans laquelle Dieu vous a placé. Dieu vous a appelé hors du monde et vous a placé dans le corps qui lui plaît. Il vous a placé dans le corps d'une mère. Cette mère, c'est nous tous. Nous ne devons donc jamais oublier tous ces points très importants qui prouvent la doctrine de la nouvelle naissance et qui nous aident également à observer les jours saints de l'automne de la manière la plus efficace possible.